dernier jour de cette petite session. Alors, il paraît qu'il y a, comme il n'y aura pas de carrefour aujourd'hui, pour qu'il y ait encore quatre cours. Alors, si vous avez des questions, notez-les. Parce que j'aime pas qu'on parte avec des interrogations. Vous voyez, tout simplement, s'il y a de vraies questions, vous les poserez ici. Puis, je répondrai rapidement. Comme ça, ça remplacera les carrefours. Je vous disais hier qu'il fallait bien découvrir en face de la philosophie hegélienne d'aujourd'hui, en face des idéologies, en face de l'ontologisme, et toutes ces couches que nous avons. On respire cet air-là, bien sûr. C'est pas la philosophie qui cherche la vérité, qui est proclamée par la télévision. Ce sont des idéologies. C'est très net. Essayez de réfléchir un peu à ça. On voit qu'on est téléguidé. Dès qu'on est téléguidé, idéologie. L'idéologie nous téléguide. Que ce soit le positivisme, que ce soit le marxisme ou Lénine, que ce soit Nietzsche, souvent c'est un cocktail de toutes ces idéologies qui sont à la mode. Vous savez comment Peggy définit la philosophie? C'est une magnifique définition, parce que c'est pas fait par un philosophe. Peggy dit: tout le monde descend le fleuve. C'est facile de descendre le fleuve. Les cadavres descendent le fleuve plus vite que les autres. Descendre le fleuve, c'est faire comme tout le monde. Qu'on soit le président de la République ou les autres, on fait comme tout le monde. On descend le fleuve. C'est difficile de remonter à la source. Le philosophe remonte à la source. Et le philosophe accepte d'être seul. Si on remonte à la source, on est seul. Il faut beaucoup de courage. Il faut pas s'inquiéter de ce que les autres disent, que les chiens aboient. Il faut pas s'en inquiéter, surtout quand il y a un clair de lune. Il faut pas s'inquiéter. Ils aboient. On remonte au fleuve. C'est très important, ça. Et c'est dit à la Peggy, alors c'est répété plusieurs fois, c'est très beau. Remonter le fleuve, trouver la source. Et trouver la source dernière. On verra aujourd'hui que si on fait de la philosophie, c'est pour découvrir l'homme dans toutes ses dimensions. Et on verra quelles sont sept dimensions. D'intéressant, du reste. On aura au terme la définition, ce qu'est une personne humaine. C'est pour ça qu'on fait de la philosophie. Et pour découvrir que l'homme est fait pour découvrir sa source. La source première, radicale. Ce que les traditions religieuses appellent Dieu. Le mot Dieu n'est pas un mot que les philosophes ont inventé. C'est dans les traditions religieuses, toutes les traditions religieuses, surtout la dernière. La dernière judéo-chrétienne. La philosophie a commencé à l'intérieur des traditions religieuses pour essayer de comprendre si ces traditions religieuses étaient authentiques, étaient vraies, ou si elles étaient des mythes. La seule tradition religieuse qui continue. Il y en a plusieurs, hein. Mais pour nous surtout, en Europe, actuellement il y en a deux. Tradition judéo-chrétienne. Est-ce que l'islam est une tradition ou c'est le livre? Point d'interrogation. L'islam n'a pas commencé par une tradition religieuse. Il a commencé par un livre. C'est très curieux, c'est intéressant du reste. Il y a d'autres traditions religieuses dans l'Inde qui sont encore vivantes. En Asie, en Chine, à Taïwan, il y a encore des traditions religieuses. En Afrique également. Mais en Europe, il n'y en a plus beaucoup. En Amérique, n'en parlons pas. Parce qu'elles sont deux fois brûlées. Alors, c'est très curieux, hein, l'Orient et l'Occident. Et on voit ça d'une façon très nette aujourd'hui. Isaac, c'est vrai, le peuple d'Israël, achevé dans le Christ. Et à côté, l'islam, qui n'est pas une tradition religieuse. Je ne crois pas qu'on puisse dire que c'est une tradition religieuse. Mais il reste intéressant à voir que c'est une religion du livre, du Coran. Alors, la philosophie, elle essaie de libérer l'homme de toutes les fausses opinions, de toutes les idéologies qui risquent de mettre l'homme en esclavage. Libérer l'homme pour qu'il découvre toutes ses vraies dimensions. Aujourd'hui, c'est ça la philosophie. Étant donné la tyrannie des idéologies. Parce que les idéologies sont devenues toutes puissantes. Alors, c'est ce qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui, vous voyez. C'est pour ça que je commence par Peggy. Découvrir la source. Mais il faut monter, hein. Il faut monter. C'est difficile. Quand on est en face de l'homme, la philosophie pratique, ça va. L'anthropologie, vous voyez, depuis Kant, le fossoyeur de la métaphysique, comme dit Nietzsche, le fossoyeur de la métaphysique, Hegel dit à peu près la même chose. Va donc, fossoyeur de la métaphysique, hein, on voit très bien, ça c'est Kant. Il a mis l'anthropologie à la place. Et aujourd'hui, des quantités de catholiques mettent l'anthropologie à la place de la philosophie. C'est très bien l'anthropologie, je suis tout à fait d'accord. La philosophie regarde l'homme. Et donc toute vraie philosophie implique une anthropologie. Une anthropologie ouverte à la philosophie première, à la métaphysique, pour découvrir la source ultime, première, que les traditions religieuses appellent Dieu, et découvrir le problème de la création. Ceci, ça me semble capital, à bien voir. Pour ça, on passe du registre philosophie pratique à philosophie de la recherche de la vérité pour elle-même. Au-delà de l'homme, immédiatement saisi, si l'homme est la mesure de notre univers physique, ce que je crois, mesure de notre univers physique, je sais bien que Freud ne serait pas d'accord. Freud dit, on a cru que l'homme était mesure de l'univers physique. C'est pas vrai. On a découvert que la Terre tournait autour du Soleil. Donc l'homme n'est plus la mesure de l'univers. On a découvert que l'homme provenait de l'animal. Donc l'homme n'est pas la mesure de l'univers. On a découvert enfin, grâce à Freud, que l'homme était retourné sur lui-même et que c'était le complexe d'Œdipe qui définissait l'homme. Donc l'homme n'est plus du tout mesure de l'univers. C'est intéressant de voir ça. Parce que c'est vrai, ça, c'est assez net. Dans une philosophie saine, on maintient que l'homme est la mesure de l'univers. Ça n'a aucune espèce d'importance que la Terre tourne autour du Soleil ou que le Soleil tourne autour de la Terre. On est dans deux trains différents. Lequel part, lequel bouge. Ça n'a aucune espèce d'importance que le corps de l'homme soit très semblable au corps des animaux très supérieurs. C'est le corps, l'âme, dit Brigitte, l'âme, dit les petits enfants, l'âme spirituelle, elle est au-delà de notre univers. Et si l'homme possède une âme spirituelle, il est au-delà de notre univers. Quant au complexe d'Édipe, laissons Freud mourir dans son complexe. Et nous, on sait très bien que l'homme n'est pas fait pour cela. S'il a une âme spirituelle, et vraiment, l'homme est mesure de notre univers. Le corps de l'homme est mesure de notre univers. Et pour cela, il faut entrer dans cette philosophie spéculative. Rechercher la vérité. Vous savez ce que dit Aristote, cette parole si importante au début de l'éthique, à Nicomaque. Platon et la vérité, je les aime tous les deux, mais la vérité plus encore. On ne peut dire ça que si on a compris ce que c'est que la recherche de la vérité pour elle-même. L'amitié humaine, c'est magnifique si les deux amis recherchent la vérité. Si les deux amis ne recherchent pas la vérité, il y a un moment où on est obligé de dire à son ami, moi je recherche la vérité avant tout. Parce que la vérité me conduit à découvrir ma source. À découvrir ce pourquoi je suis fait. D'une manière ultime. Platon ne disait pas à Aristote ce pourquoi il était fait. Et c'est pour ça qu'il a été obligé de quitter Platon. Un maître qu'il aimait. 22 ans avec lui, c'est quelque chose. Hein. Pour un grec, il l'a quitté. Il l'a dépassé. La philosophie spéculative, c'est la recherche de la vérité. Première expérience, celle de la matière. Du monde matériel. C'est une expérience extrêmement forte. C'est l'expérience de ce qui est mu. C'est l'expérience du corruptible. On la met tout le temps, cette expérience. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit que la grotte de Nazareth s'effrite. C'est depuis ce siècle. Un petit signe. À cause de la pollution de l'air. On s'aperçoit à Athènes que le Parthénon s'effrite. Alors qu'il avait tenu jusqu'ici. À cause de la pollution de l'air. On s'aperçoit que les poumons de l'homme et de l'enfant s'effritent à cause de la pollution de l'air et d'autres pollutions de la mer. Vous savez, quand il y a eu cette conférence à Stockholm il y a quelques années, j'ai pas été, hein, mais j'ai un ami qui est allé. Tous les diplomates, du moins, toute une série de diplomates étaient invités sur la pollution de l'air. Et de la mer. Parce qu'on s'inquiète. La Méditerranée est polluée. Bientôt, il n'y aura plus de poissons. Tant mieux. Ils meurent. Pollution. De l'air et de la mer. Je comprends que l'humanité se penche là-dessus. Alors, c'était du temps de Mao. Donc, du petit livre. Du petit livre rouge. il y avait les représentants de Mao, en uniforme, les seuls. On les voyait tout de suite, et ils étaient tout le temps ensemble. Tout le monde avait la parole, donc eux ont eu la parole. Ils n'ont pas parlé tout de suite, ils ont laissé les autres. Puis tout simplement, alors là, ça n'a pas passé dans la presse, hein. Mais je le sais de source sûre. Vis-à-vis d'un ami, il a été mon étudiant à Fribourg en faisant une thèse sur la politique d'Aristote. Il m'a dit, ça a été très impressionnant. Ils se sont levés ensemble. Ils ont dit, nous vous posons la question. La science est-elle pour l'homme ou l'homme est-il pour la science? Les maoïstes. Personne n'a répondu. Même pas mon ami. C'est la science glaciale. Puis ils sont assis. Le débat a continué, comme s'il n'avait rien dit. À la fin, ils se sont relevés. Messieurs, vous n'avez pas touché la question fondamentale. On peut continuer autant que à donner des palliatifs sur la pollution, mais n'oubliez pas que la science va plus vite que l'homme. Donc la pollution ira plus vite que vos palliatifs. Nous reposons la question. La science est-elle pour l'homme ou l'homme est-il pour la science? Je connais ce professeur à Paris qui a fondé l'Institut de la vie. Quand il l'a fondé, il m'a dit, je fonde cet Institut de la vie parce que je sais, il y a 20 ans qu'il l'a fondé, parce que je sais que la science biologique fera des progrès énormes et je ne veux pas que ce soit les savants biologistes qui décident du sort de l'humanité. Et je veux que ce soit l'humanité qui décide de son sort. Parce qu'on arrivera à un moment H où, de fait, l'humanité décidera de son sort. C'est pour ça qu'il a fondé l'Institut de la vie. 15 ans après la fondation de l'Institut de la vie, il m'a dit, je voudrais présenter l'Institut de la vie au Saint-Père. C'était du temps de Paul VI. Il m'a dit, est-ce que vous ne connaissez pas un petit escalier de service qui me permettrait d'avoir une audience? Parmi ces 15 savants, se regardaient entre eux, il y avait 8 prix Nobel. Ils se regardaient entre eux et disaient, nous représentons la science. C'est pas mal, hein? Une sainte modestie. Mais de très grands savants, hein, les sommets. Avec les Chinois qui n'étaient pas représentés. Mais les Russes étaient représentés, les Soviétiques étaient représentés. Nous représentons la science. C'est pas étonnant, c'était Mao. Oh, très bien. Alors, et tous les ans, ils se rassemblent une année, les 15, l'année suivante, à la grande réunion qui se fait à Versailles, ordinairement. Autrement, dans les différentes capitales. Or, cette année-là, c'était à Rome. Et il voulait à tout prix présenter ces 15 grands savants au Saint-Père, à l'église. Alors on avait essayé de trouver le truc pour trouver l'escalier de service. Du temps de Paul VI, je le connaissais moins bien. Mais on l'a trouvé. Donc l'audience était prévue. Mais il n'avait rien dit à ces 15 savants. Première séance, c'est lui qui m'a raconté ça. Donc ça aussi, en dehors de la presse. Réunion par le président de l'Académie des sciences italiennes. Et cette académie est sous le patronage de Galilée. Grand discours du président. Heureux de vous recevoir, parce que maintenant nous savons que Galilée avait raison. C'est la science qui gouverne le monde. Ce n'est plus le Vatican. Le Vatican est en perte de course et la science progresse. Alors, tout topo là-dessus. Alors, il m'a dit, parlez après ce grand discours sur l'audience que j'avais demandé aux Imbert, ne sachant absolument pas l'opinion de ces 15 grands savants. C'était pas très commode. Alors, j'ai présenté le programme, me dit-il, puis j'ai dit, on est à Rome. J'ai cru bon de prendre l'initiative de demander une audience à Paul VI. Et cette audience est accordée pour telle date, mercredi, telle heure. Alors, le président de l'Académie italienne a pris son petit carnet. Ah, je suis désolé, je dois faire une conférence à tel endroit. Les autres avaient tous une figure très allongée, pour ne pas dire furieuse. Il m'a dit, je m'attendais que chacun prenne son carnet. C'est pas passé comme ça. Ils ont dit, croyez-vous ça opportun? L'Église est en perte de vitesse. Croyez-vous ça opportun? Vraiment. Alors chacun a dit son mot. Et tous, les 15, ont dit que comprenez pas très bien. Mais en même temps que chacun dit son avis, il n'y a pas un seul qui avait la foi. Milieu protestant, milieu catholique, la science. Le progrès de la science. Je dis ça parce que c'est tellement impressionnant, moi. Ça m'a beaucoup impressionné de voir ça. Alors tous unanimement, après ça m'a dit, ah mais, monsieur Marois, ne vous inquiétez pas. Nous vous aimons. Vous êtes notre secrétaire. C'est vous qui avez fondé l'Institut de la vie. Puisque vous l'avez fait, nous serons là. Par affection pour vous. Il les a remerciés. Le jour H. Ils étaient tous là avec leur épouse. Alors il y a toujours une petite anecdote, vous savez, très très particulière, qui est sympathique. Pour montrer que c'est dans la vie, quoi. Alors, toutes les épouses étaient là, en tenue correcte, sauf une. Sauf une. En tenue légère. Alors, le professeur Marois s'est approché d'elle et dit, madame, pourquoi n'avez-vous pas mis votre robe à laquelle vous êtes arrivée? Vous savez qu'ici, il y a quand même des habitudes. Quand même pas tout à fait normal. Alors elle lui a dit ça, elle lui dit, je suis désolé, est-ce que vous ne pourriez pas? Alors elle l'a regardé et dit, oh, si vous le désirez, je vais tout de suite me changer. Attendez quelques minutes, je reviens. Alors le mari de cette épouse s'est approché de Marois. Je commence à croire qu'il y a des miracles. La première fois qu'elle obéit. C'était le petit signe charismatique. Alors elle est revenue. J'ai vu les photos de l'audience. Ils étaient 15. Paul VI est arrivé. Ils étaient tous assis. Ils se sont tous levés d'un seul bond. Il y y en avait un qui était un peu infirme. C'était juste celui qui était à l'extrémité. Il avait de la peine à se lever. Paul VI a mis sa main dessus. Il dit, mon cher ami, restez. Ne vous levez pas. Ce petit geste de Paul VI a fait comprendre que le Saint-Père n'était pas une momie. Ce qu'ils avaient dit, le pape, c'est une momie. C'est un organe témoin d'un âge révolu. Fini. Il y a le musée du Vatican. Ils avaient dit ça dans leurs remarques. Alors, paraît-il, c'est ce qu'il m'a dit, ça a fait tomber complètement la glace. Et le Saint-Père a dit ça, ce petit discours que j'ai lu. J'ai retenu parce que c'était du Paul VI, net, précis. Premièrement, l'Église a toujours admiré la science, en reconnaissant que la science était une chose grande. L'Église rappelle aux savants que la science est au service de l'homme et que l'homme n'est pas au service de la science. Troisièmement, l'Église rappelle aux savants qu'il y a un créateur et que la vie vient de Dieu. Et que la science ne peut pas manipuler comme elle veut l'homme qui est créé à l'image de Dieu. Il me paraît-il un grand silence. Ça a duré 10 minutes, un quart d'heure. C'est 3 points. Et après, il a présenté chaque... Puisqu'il était l'ami du pape. Marois était l'ami du pape. Il était le seul laïc qui avait été invité au concile. Seul laïc, savant. Alors il a présenté au Saint-Père, chacun. Et le Saint-Père s'est arrêté particulièrement vis-à-vis de celui qui avait résisté le plus dans la physique nucléaire. Alors le Saint-Père l'a interrogé, pourquoi avez-vous choisi cette spécialité? Quel intérêt y a-t-il par rapport à l'homme? Il l'a interrogé. Et tous, après l'audience, sont venus auprès de Marois. J'ai dit merci. Merci. Vous nous avez fait découvrir quelque chose. Si le pape n'existait pas, il faudrait l'inventer. Parce que c'est le seul homme qui ose nous dire la vérité. Nous sommes prix Nobel. Tout le monde s'incline devant nous. Lui nous rappelle que la science est au service de l'homme. Lui nous rappelle qu'il y a un créateur. Alors, vous comprenez la joie qu'il avait quand il est revenu de Rome. C'est vrai, on s'est retrouvés. Il m'a raconté ça. J'ai trouvé ça merveilleux. Étonnant du reste. Mais au fond, ce qui prouve que ces grands savants étaient de vrais grands savants. Les grands savants sont humbles et comprennent qu'il y a des limites à la science. Je crois que c'est pour cela, vous voyez, que la philosophie demeure nécessaire pour rappeler que l'homme est au-dessus de la science. Pour rappeler au plan purement humain, indépendamment de la foi. Le pape parlait au niveau de la foi, quoiqu'à eux, il leur a parlé un langage humain. Il n'a pas fait allusion à la foi. Il avait allusion au Créateur. Alors c'est pour là que, aujourd'hui, plus que jamais, après ces idéologies athées, il faut que nous comprenions qu'il y a une recherche philosophique sur la matière. Le philosophe ne peut pas dire grand-chose, c'est bien évident. Mais il peut parler de la matière. Il peut essayer de comprendre ce que c'est que cet univers physique et le sens de ce que c'est que la nature. L'univers physique est antérieur à l'homme, la nature. Alors, c'est sûr que le progrès de la science oblige le philosophe de tenir compte des conclusions scientifiques, non pas du tout comme des principes, mais comme le but d'une recherche scientifique. Et ça, c'est très important. Je ne peux pas reprendre la physique d'Aristote et la répéter. Non. Mais je peux essayer de comprendre ce qui, dans la physique d'Aristote, reste valable et valable. Et alors, à ce moment-là, le progrès scientifique et les recherches scientifiques sont extrêmement intéressantes parce qu'elles obligent le philosophe d'être plus philosophe. Le philosophe, c'est celui qui regarde l'homme. Et il sait que le savant ne regarde pas l'homme. De regarder l'homme, il n'a jamais le droit de quitter cette dimension. Et donc, il commence sa recherche du monde physique à partir de la matière. Qu'est-ce qu'a le sens de la matière ? L'artiste. Dans notre monde d'aujourd'hui, l'artiste a le respect de la matière. C'est étonnant, ça. Un vrai artiste. Le savant n'a pas beaucoup de respect de la matière. Il regarde la matière en tant qu'il peut la manœuvrer, l'utiliser, dans l'auto-efficacité, et uniquement comme ça. Alors on lui dit, mais vous allez très loin. Vous savez ce que vous faites ? Non. Les conséquences, j'en sais rien. Vous voyez, ce qui est terriblement dangereux aujourd'hui, c'est qu'avant, les expériences se faisaient dans un laboratoire. Donc, on était maître de ce petit laboratoire. Aujourd'hui, les expériences se font dans l'univers. Et c'est l'univers qui est le laboratoire des savants. Au nom de quoi ? Au nom de la science, et les hommes n'ont rien dit. C'est quand même très étonnant, ça. Et c'est un fait, hein, on est devant ça. Arrêter la science aujourd'hui, c'est impossible. C'est absolument impossible. Elle est partie à une vitesse extraordinaire. Les chiffres, moi, je les oublie, là. Mais il y a quelques années, je me souviens, quelqu'un qui est dans le monde scientifique, qui est un grand savant, me disait, depuis les 10 dernières années, le capital des connaissances scientifiques a doublé. Alors vous voyez ça. Avant, il fallait 100 ans pour que ça double. On était à une vitesse extraordinaire. Grâce à l'ordinateur. Et on a un instrument de la raison, pas de l'intelligence. Hein. L'ordinateur n'a rien à voir avec les jugements et les raisonnements, et uniquement les raisonnements, les calculs. Grâce à l'ordinateur, si tu restes à propos de l'ordinateur, il y a une histoire merveilleuse qu'il ne faut jamais oublier. C'est encore de l'Institut de la vie, parce que l'Institut de la vie a ce privilège de temps en temps, il y a des choses très étonnantes. C'est encore lui qui m'a raconté cette histoire. Il y avait la grande conférence sur l'ordinateur. Et alors, il y avait le pontife, le grand pontife de l'ordinateur. Il est arrivé habillé comme un grand prêtre. Un Américain, je ne sais plus son nom, peu importe, le pontife de l'ordinateur. Il a exposé ce que c'était que l'ordinateur. En montrant cette chose inouïe, à partir de là, les calculs se volatilisent et on règle une rapidité folle. Alors, après cet exposé, ils pouvaient, parce que c'était des savants, poser des questions. Il y en a un qui a posé cette question. Est-ce que l'ordinateur peut nous répondre sur le sort de notre monde ? Notre monde s'use. Quand y aura-t-il le terme de notre monde et la fin de notre monde ? Question. question astucieuse. Alors, il a dit, je vous demande un quart d'heure de silence, comme il était pontif. Et il avait la liturgie de l'ordinateur, et il avait le droit de demander un quart d'heure de silence. Pendant un quart d'heure de silence, tous les savants se sont plongés dans une méditation, sans avoir la capacité de l'ordinateur. C'est extraordinaire, hein, comme liturgie. Et au bout d'un quart d'heure de silence, il a répondu, l'ordinateur ne peut pas répondre. J'ai trouvé ça merveilleux. Ce sont des perles, ça, de notre monde d'aujourd'hui. Dans un milieu scientifique sérieux, très sérieux. Quand tous les savants sont ensemble, vous savez, c'est très sérieux. Un savant seul, on peut encore le faire rire. Mais les savants ensemble, non. Parce que ça, c'est ce qu'il y a de plus sérieux. Très sérieux. Alors le pontife. C'est vrai, la science est lancée une rapidité folle. Et en même temps, aujourd'hui, les savants comprennent la limite de leur science. Ça, c'est un progrès énorme. C'est énorme. Ils touchent de nouveau des problèmes philosophiques. La science, pendant un temps, a exclu la philosophie. Maintenant, elle touche des problèmes qui touchent l'homme. Et elle comprend que l'homme est plus que la science. Mais elle se demande s'il n'est pas trop tard. Parce qu'on a lancé le monde entier dans une perspective de recherche scientifique extraordinaire. C'est encore là anecdote de ce cher Marois, c'était au début du concile, il était là pour représenter la science. Il va auprès du très révérendissime père général d'une congrégation importante et lui dit, il se présente et puis il lui explique ce que c'est que l'Institut de la vie. Alors le révérendissime père général répond, vous savez, combien nous sommes attentifs au progrès de la science et combien on a toujours été attentifs au progrès de la science et combien on est encore pour aider ce progrès. Alors Marois répond, révérendissime père, vous ne croyez pas que maintenant il y a assez de savants dans la vie, dans le monde entier? Vous ne croyez pas que ce qui manque dans le monde entier aujourd'hui, c'est des philosophes, de vrais philosophes, des théologiens et des saints? Alors le révérendissime père a répondu, ah, vous croyez? Et l'autre a répondu, oui, j'en suis sûr. Le dialogue, vous voyez, du laïc avec l'ecclésiastique, c'est assez étonnant ça. Moi je trouve ça très beau du reste. C'est vrai que la science aujourd'hui est lancée avec une rapidité étonnante. Et en face de ça, des quantités de philosophes abdiquent. Ils se mettent à la remorque de la science pour faire une méta-science. Une méta-science, ça aboutit à une logique, pas plus. Ça ne peut pas aboutir plus que de logique. C'est universaliser les données scientifiques, les conclusions scientifiques. Et c'est oublier l'homme. Ce qui est terrible dans notre monde d'aujourd'hui, c'est l'oubli de l'homme. C'est pour ça que le Saint-Père, qui sent ça très fort, ne cesse de rappeler que c'est l'homme la route de l'Église. Il n'est pas la science. Il dit l'homme. Parce qu'il sait que c'est l'homme qu'on doit regarder avec attention. D'où première émergence de la philosophie spéculative, la recherche de la matière. Notre monde a une certaine unité. Quelle est l'unité de notre monde? Teilhard Chardin, Thomas d'Aquin, Aristote sont d'accord. C'est pas mal, hein? comme c'est étonnant. Et on pourrait dire la Genèse. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Première chose. Je trouve ça très très étonnant et très beau. Alors ils le disent de façon différente, mais ils montrent que la lumière fait l'unité de notre monde physique. Et la matière est source de potentialité, d'indétermination, de relativité. Notre monde physique est un monde relatif. Tout ce qui est matériel et corruptible échange et ne cesse de changer. Le philosophe peut dire peu de choses sur la matière, simplement montrer que tout ce qui existe implique une détermination. Et c'est ça la nature. La nature est source de détermination. Au milieu d'une relativité constante, au milieu d'une corruptibilité. Ce que le philosophe cherche, c'est de savoir ce que c'est que le temps. Le savant l'accepte, mais le philosophe recherche ce que c'est que le temps. J'avais fait à Fribourg un petit séminaire extraformable, en dehors de l'université. On se réunissait toutes les semaines avec un physicien, un mathématicien, c'était des professeurs, un chimiste, un poète, et puis on était deux philosophes. Réfléchir sur ce que c'est que le temps. C'est très intéressant de voir que seul le philosophe parle de l'instant présent. La seule chose qui existe. Le passé n'existe plus, le futur n'existe pas encore. La verticale, c'est l'instant présent. Et seul le philosophe parle de l'instant présent. Le temps est mesure du mouvement. Aristote a dit ça et ça reste valable. Le temps, l'instant présent. Et l'instant présent qui existe. Quand je dis ceci est l'instant présent. Parce que très bien, tout à l'heure ce ne sera plus. Je suis ceci maintenant. Je vais me lever. Et vous aussi. Voyez, le verbe exprime l'action de l'instant présent. Et le philosophe essaie de comprendre ce que c'est que l'instant présent et ce que c'est que le temps, qui pour le philosophe est lié à l'instant présent. Le temps du mathématicien, le temps du physicien, de l'astronome, il y avait un astronome, le temps astronomique, qui n'est pas la même chose que le temps du philosophe. Tous ces calculs astronomiques, qu'est-ce que ça veut dire dans la réalité? Difficile à savoir. Parce que c'est le temps du savant. Et le temps du savant demeure dans le point de vue de l'ordre antécédent et ce qui demeure avant ce qui est après. Il faut bien distinguer hein, la vision du temps de l'astronome et du philosophe. Parce que pour le philosophe, c'est toujours lié à l'homme. Est-ce qu'il existait un temps avant l'homme? Question très délicate. Est-ce qu'il existait un temps? Le préhistorique. Il existait un temps scientifique. Mais pas un temps humain. Pas relié à l'instant présent. Pour le philosophe, le temps est une notion qui n'est achevé que par l'intelligence, parce que c'est une mesure. C'est pour ça que le temps est le lieu de rencontre de la philosophie idéaliste et de la philosophie réaliste. C'est très bien le lieu, pas l'espace. L'espace, c'est une invention de Descartes. Le lieu, c'est beaucoup plus intéressant, le lieu. C'est ce que je constate. Il y a un ordre dans les réalités, il y a un lieu. Les galaxies ne sont pas trop près de nous. Heureusement pour nous, on serait vite grillé. Ça ne durerait pas longtemps, la grillade. Ce serait pulvérisé. Ah, il y a le lieu. Pff, là, là. Les galaxies sont des amies quand elles sont loin. Mais si elles sont proches, on étudie, et ça c'est très intéressant, de voir comment l'atmosphère, comme c'est intéressant de voir ça. Et si on touche à l'atmosphère, on ne sait plus où on va. Je m'arrête là. Second moment de la philosophie spéculative, le vivant. Cette question, pourriez-vous expliciter la parole du Christ, la vérité vous rendra libre. Au niveau de l'homme, En quoi consiste cette liberté? Si je prends le contexte de l'Évangile, c'est évident que cette liberté, c'est la liberté des saints. C'est-à-dire cette liberté à l'intérieur que donne l'Esprit Saint. On est toujours disponible à faire pleinement la volonté du Père. C'est la grande liberté de se mettre en état de disponibilité, ce que fait la vérité. La vérité nous rend disponibles à l'accomplissement plénier de la volonté du Père. Oui, liberté intérieure. On est tenu par des quantités de choses secondaires quand on ne recherche pas la vérité, mais du fond de son cœur. Le pécheur est esclave. C'est la parole juste inverse. L'esclavage de l'orgueil. L'esclavage du péché. Votre père, c'est le diable. C'est ce chapitre 8 dans Saint Jean, qui est le moment le plus terrible où Jésus dénonce la lutte. On est esclave de l'orgueil. Et chacun d'entre nous, hein, on est esclave de l'orgueil. Plus ou moins, on en sort plus ou moins. C'est toujours l'orgueil qui nous rend esclaves, qui nous empêche d'avoir cette liberté plénière. Parce qu'on désire être quelqu'un et on ne recherche pas la vérité par-dessus tout. Alors nous allons maintenant regarder le second moment de cette philosophie spéculative qui est recherche du vivant, de l'homme vivant. Parce que la philosophie du vivant regarde l'homme, étant donné que je n'ai aucune expérience interne de ce que la vache vit quand elle broute l'herbe, quand elle regarde le TGV. Aucune expérience. Est-elle heureuse? Est-elle malheureuse? J'en sais rien. Tandis que je peux être conscient à ma vie intellectuelle, ça va de soi, ma recherche de la vérité, ma vie affective également. Ma vie passionnelle et imaginative aussi. Ma vie végétative, je suis conscient d'une certaine manière. Quand j'ai mal à l'estomac, j'ai mal à l'estomac. Quand je digère bien, je n'y pense pas. Tu vois, normalement. Tu vois, quel bon repas. Je le digère bien. Vous n'y pensez pas. Quand votre cœur bat normalement, vous n'y pensez pas. Et quand il commence à battre, vous dites pigre. Les stress, aujourd'hui, les stress. Alors on voit très bien que les gens sont habitués à se tâter le pouls. Et je n'ai pas conscience de la digestion. Normalement, sauf quand ça ne va plus. C'est curieux ça. Quand je prends mon petit déjeuner le matin, oui, je suis heureux de le prendre, parce que ça me permettra de repartir la journée, prendre des petits vivres, remettre un peu de charbon dans la locomotive. Mais je ne sais pas très bien comment ça se passe, cette assimilation. Les savants étudieront, mais moi je ne sais pas très bien, je ne suis pas conscient. Alors, de fait, on distingue tout de suite trois degrés de vie, selon la conscience qu'on en a. très vieux. C'est les pythagoriciens qui ont fait ça. Aristote l'a repris. Et la science n'a rien changé là-dessus. Parce que la méthode philosophique pour étudier ce que c'est que le vivant implique cette attitude réflexive, cette lucidité. Je réfléchis sur mes activités. Vital. Je réfléchis sur ce que c'est comme mon activité artistique, le chant. J'entends si c'est juste ou pas juste. J'entends si c'est harmonieux ou pas. J'entends si c'est beau ou pas. Je vois si ça me plaît, si ça me convient. Vous savez la définition de saint Thomas sur le beau? Quod visum placet. Ce qui est vu qui plaît. Ce qui est entendu qui plaît. C'est une définition subjective. De la beauté. Et il y a une autre définition de la beauté objective, ce qui est harmonieux, ce qui est proportionné, ce qui implique un rythme. Je peux facilement discerner en moi une vie toute intérieure. Et c'est ça qui me fait comprendre ce que c'est que la vie. La vie implique une immanence. Et ça demeure. La science moderne n'a rien changé là-dessus. La vie implique une immanence. Une immanence vitale, suprême dans les opérations de l'esprit. Tout est immanent. Quand je pense, personne ne s'en aperçoit. Quand j'aime, si je cache bien mon jeu, personne ne s'en aperçoit. Parce que ça peut s'extérioriser, comme la pensée, par la parole. Alors on peut voir à ce moment-là que quelqu'un a bien pensé par la parole. On peut voir que quelqu'un aime. L'amour est premièrement immanent. La pensée est premièrement immanente. La vie suprême qui est en moi, la vie de l'esprit, est immanente. La vie passionnelle qui reste sensible est immanente, mais pas entièrement. Il y a une répercussion. Lisez-le dans le Deira. De Sénèque, la description de la colère. Description magnifique. Lecture au réfectoire des héros de Sénèque. C'est quelque chose c'est intéressant de voir un stoïcien comme Sénèque qui décrit la colère. Parce que les stoïciens n'aiment pas les passions. Ils sont horreur. C'est mauvais. Alors il montre tous les méfaits de la colère. C'est vrai, la colère est une passion qui se manifeste. Ordinairement, vous voyez tout de suite sur les visages de quelqu'un que vous connaissez bien s'il est en colère, s'il est triste, s'il est abattu. Ton visage est abattu. C'est Jésus qui dit ça. Adam. Ah, je veux dire à Cain. Ton visage est abattu. Quand on est triste, quand on a fait une bêtise, on se replie sur soi. Alors qu'au contraire, quand on est joyeux, toute voile dehors, oui, les passions se manifestent. Mais c'est quand même quelque chose d'intérieur. Et la vie végétative, elle est intérieure et extérieure. Parce qu'elle se réalise avec, dans le domaine corporel. C'est la vie à l'intérieur du corps. C'est le corps qui devient vivant. Et la première opération de la vie végétative, c'est l'assimilation vitale. et la simulation vitale, vous voyez bien ce que c'est. Vous mangez un morceau de pain, un petit pain frais, c'est bon. Et vous l'assimilez. Après l'avoir mangé, il est en vous. Et c'est vrai, les hommes. Le vivant assimile. Il assimile tout ce qui est conforme à sa vie végétative. Et ce qui n'est pas conforme à sa vie végétative, il le jette. Il y a un discernement. Et tant qu'on est un grand vivant, ce discernement se fait. Le jour où on n'est plus un grand vivant, le discernement ne se fait plus et on s'empoisonne. Très curieux le vivant, ça. Il assimile. Il assimile pour lui. C'est très égocentrique la vie. Dans la vie végétative. Dans la vie passionnelle, c'est encore très égocentrique. Dans la vie spirituelle, ça commence à regarder l'autre. Et c'est le signe d'une vie spirituelle. Il n'y a plus cet égocentrisme extraordinaire de la vie végétative. Les trois degrés de vie, la très grande variété de nos opérations vitales, ça c'est facile à comprendre. Toute la gamme. Faites un petit examen de conscience de toutes vos opérations vitales durant la journée. Le savant dira qu'au bout de 6 ans, toutes les cellules de notre vie végétative ont changé, du moins beaucoup. Et c'est toujours moi. J'ai pas l'impression que tous les 6 ans, je change de vêtements corporels. J'ai l'impression de continuité, avec des discontinuités, des jours fastes et des jours néfastes. Mais c'est toujours moi. Comment se fait-il qu'il y a en moi cette unité et cette diversité? C'est un fait que je constate, c'est mon expérience. Et le philosophe s'interroge toujours quand il y a unité et multiplicité. Le philosophe s'interroge parce que l'unité ne peut pas provenir de la multiplicité. Qu'est-ce qui fait qu'à travers cette très grande diversité d'opérations vitales, y a l'unité. Qu'est-ce qui fait cette unité? Pourquoi cette unité? D'où vient cette unité? Qu'est-ce que c'est que cette unité? Je pose des questions. J'interroge. Parce que je suis en admiration devant ça. Je vois que mes organes physiques, biologiques, de mes sensations, peuvent s'user. Un beau jour, je dois porter des lunettes. Très humiliant. Porter des lunettes. Affreusement humiliant. C'est vrai. J'entends moins bien. Très humiliant. J'entends moins bien. L'organe physique s'use. Et pourtant, j'ai toujours le même désir d'entendre. Et je constate que j'entends moins bien. Et le savant sera là pour me montrer ce que j'entends encore et ce que je n'entends plus. Et réparera ça par des instruments, des super organes qui viennent se mettre au-dessus, qui n'entrent pas dedans. Malheureusement. C'est très curieux de constater l'usure du corps. Pendant tout un temps, j'ai grandi. J'atteins un sommet. Je reste sur le haut plateau longtemps. Puis je commence à dégringoler. Et quelquefois très vite. Et pourtant, c'est toujours moi. Conscience que c'est toujours moi. Alors, je me pose la question. Je vois tout de suite qu'il y a en moi une source de fatigue, une source d'usure et une source qui reste la même. Je poserai donc progressivement une source au-delà de toute cette diversité qui maintient l'unité. Ce qu'on a appelé dans les traditions religieuses l'âme. L'âme n'est pas un mot d'invention philosophique. Et puis j'ai le corps. Ces traditions religieuses proviennent de l'Inde. Pas l'oublier. La Grèce, dans ses traditions religieuses, n'a pas cette distinction. C'est Platon qui, de fait, a introduit dans sa philosophie la distinction âme et corps. Et ceci provient des traditions de l'Inde. Et Platon a montré que cette distinction de l'âme et du corps n'était pas un mythe religieux, un symbole religieux. C'était une réalité, qu'il y avait bien, en effet, une source de vie spirituelle liée à un organe. Un corps extrêmement complexe et que la mort c'était la séparation de ces deux principes, de ces deux sources. Aristote a repris ça en le perfectionnant parce que pour Platon le corps n'est jamais uni substantiellement à l'âme. Le corps reste toujours extérieur à l'âme. L'âme meut le corps comme le cocher qui conduit ses animaux. certain moment, les animaux corporels, les chevaux, sont impétueux et le cocher ne peut plus rien faire. Et il laisse les chevaux aller au galop. C'est l'analogie métaphorique que prend Platon. C'est très joli du reste. C'est tout à fait ça. Mais l'âme est extérieure au corps. C'est pour ça que la mort est une libération du corps pour Platon. Parce que le corps est le tombeau de l'âme. C'est lourd à porter le corps. Très lourd à porter. Surtout quand il est passionné et qu'il m'entraîne dans des lieux où je n'ai aucune envie d'aller. C'est le corps qui fait ça. Le corps devient pesant après un bon repas. Le corps devient pesant après une longue fatigue. J'ai envie de dormir. Et mon âme n'a jamais envie de dormir. La distinction de l'âme et du corps repose donc, au plan philosophique, sur une induction. C'est la plus belle des inductions. Alors, il faut la regarder attentivement, celle-là. Il faut la regarder attentivement. Et nous devons tous essayer de la comprendre. Surtout qu'aujourd'hui, on ne veut plus la distinction de l'âme et du corps. Même en milieu religieux. Deux petits exemples, vous comprendrez. Dans un milieu intellectuel que je nomme pas, chrétien, de théologien, il y a quelques années, ils m'ont demandé de leur faire un petit cours sur l'âme. Qu'est-ce que c'est que l'âme? Là, j'ai essayé de leur expliquer. Ils sont écoutés très sagement. Puis à la fin, ils ont dit, oui, c'est très bien, mais ça n'a plus cours sur le marché. Alors je dis, ah oui, tout dépend ce que vous cherchez. Si vous cherchez à vendre vos produits, alors je comprends. Si vous cherchez la vérité, la question c'est de savoir si c'est vrai ou faux. Est-ce que l'âme existe? Au point de vue de la foi, c'est net. C'est net. Vous n'êtes plus croyant si vous dites que l'âme n'existe pas. Parce que l'âme est créée par Dieu. Elle est directement créée par Dieu. Le corps n'est pas directement créé par Dieu. C'est pour ça que la procréation est un acte si important, parce que de fait, c'est le concours de l'homme avec le Créateur. C'est le seul acte où il y a concours de l'homme et du Créateur. Pas non, pas le seul. Il y en a un qu'on verra ensuite. C'est quand même l'alliance fondamentale et première de l'homme avec Dieu. Et le jour où on commence à toucher ce problème de la procréation, on touche l'alliance fondamentale. On est en face de tremblements apocalyptiques. Puisqu'on touche l'alliance fondamentale de l'homme avec Dieu. Le philosophe peut le dire, ça. Le philosophe peut montrer que la procréation est au-delà de la morale, puisqu'on touche du sacré, une alliance avec Dieu. Et c'est pour ça que l'homme n'a pas le droit de changer cela. Le savant usurpe, il ne sait pas où il va. Il ne sait pas où il va. Alors, aujourd'hui, on n'aime plus la distinction de l'âme et du corps. Dans le milieu de jeunes théologiens, de certains jeunes théologiens, dans le milieu philosophique, depuis Merleau-Ponty. Pour Merleau-Ponty, la distinction de l'âme et du corps est une vieille distinction grecque, aristotélico-thomiste, qu'il faut dépasser. Pourquoi ? parce que toute la philosophie de Merleau-Ponty repose sur le vécu et la conscience. Et donc, au niveau de la conscience, je n'ai pas conscience, sauf dans les rêves, d'une âme séparée. Quand vous commencez à avoir conscience de votre âme séparée, c'est dangereux. Et vous laissez votre corps dormir, et vous vous réveillez dans votre âme séparée. Alors, pour Merleau-Ponty, peu de distinction de l'âme et du corps. C'est intéressant de voir ça, du reste. Pour beaucoup d'aujourd'hui, j'ai vu en Suisse, je ne sais pas d'où ça vient, je ne suis plus en Suisse, alors je peux dire ça. J'ai vu en Suisse, dans le fond d'une église, ça m'intéresse de ramasser les petits papiers. Un papier, il était vert, je le vois encore. Je l'ai gardé longtemps et puis après. Il disait ceci. C'était adressé pour les catéchistes. C'était dans le Valais. Surtout ne parlez plus de la distinction de l'âme et du corps. C'est une vieille distinction thomiste, aristotélicienne. Alors n'en parlez plus, c'est fini, ça, c'est un mythe. Parlez tout simplement de la conscience. Alors, comprenez que j'ai retenu ça. Les bêtises, on les retient. Parce que c'est une erreur. La distinction de l'âme et du corps n'est pas une distinction de saint Thomas et d'Aristote. Platon l'a prise avant Aristote. Et c'est une distinction qui repose sur les traditions de l'Inde. Traditions religieuses. Parce que dès qu'on dit que c'est l'Inde, on est à plat ventre. Tradition de l'Inde, on n'y touche pas. C'est trop sacré. Tandis que les distinctions aristotéliciennes qu'on est et de saint Thomas, ça, aujourd'hui, on est. Donc il faut savoir ça. Il faut savoir ça parce qu'il faut relever. Il ne faut pas répéter des bêtises. C'est erroné. Un homme intelligent ne dit plus ça aujourd'hui. Donc il ne faut pas dire des bêtises. La distinction de l'âme et du corps est une distinction qui repose sur les traditions religieuses, qui a pénétré dans notre philosophie occidentale, européenne, par Platon. Déjà, on a beaucoup plus de respect. Platon, c'est très vénérable. Et qui existe dans le néoplatonisme. Alors là, on n'ose plus rien dire. Qu'Aristote a repris pour montrer qu'en effet, c'était valable. Que l'âme, c'était un principe de vie. Donc il faut se rappeler ça. Et quand quelqu'un vous dit distinction aristotélienne, souriez avec un tout petit peu d'ironie. Ah, tu en es encore là. On a dit ça depuis longtemps, puis c'était passé maintenant. La science a reconnu que c'est une distinction qui repose sur les traditions religieuses de l'Inde. Alors, je vous donne la confirmature de ce que je vous dis. Un historien vénérable de la philosophie grecque, Breyer, qui est très très honnête, dit en parlant du stoïcisme, le stoïcisme a supprimé la distinction d'âme et du corps et est revenu à la tradition ancienne des Grecs avant Platon, où il n'y avait pas de distinction d'âme et du corps. Donc vous voyez, la philosophie grecque est plutôt sans distinction d'âme et du corps. Mais elle a accepté, parce qu'elle était ouverte aux découvertes, elle a accepté, à cause des traditions religieuses, la distinction de l'âme et du corps, chez Platon, chez Aristote, chez toute l'école néoplatonicienne et aristotélicienne. De sorte que tous les pères de l'Église affirment unanimement il faut les modernes, et les modernes du milieu de ce siècle pour dire qu'il n'y a pas de distinction de la vie du corps. Vous voyez, je crois qu'il faut être très net là-dessus. Et la distinction de la vie du corps s'impose. J'en prends encore un petit exemple, parce que je vous montrer qu'on est devant des exemples. C'était, quand j'étais à Fribourg, le cher professeur de philosophie de Lausanne, un collègue protestant et un grand ami, il est mort maintenant. Bon, j'allais souvent chez lui, parce que je l'aimais beaucoup. Lui me disait mon père, son épouse me disait monsieur. Il y en avait un dialogue à trois, comme ça. Je me tournais de temps en temps vers madame, et de temps en temps vers monsieur qui me disait mon père. C'est des moments tragiques, vous voyez. Parce qu'elle était barthienne. Et les barthiennes sont des philosophes, étudiantes n'acceptent plus la distinction de l'âme et du corps. Ils sont merleau-pontiens. Alors il me dit en riant, puisque vous maintenez la distinction de l'âme et du corps, il me dit, moi j'ose rien dire à mes étudiants, mais je suis plutôt d'accord avec vous. J'étais chrétien, bon. Je suis plutôt d'accord avec vous. Est-ce que vous ne pourriez pas venir? Je ne peux pas vous inviter à l'université, c'était avant le concile. Je ne peux pas vous inviter à l'université parce que, vous savez bien, professeur à Fribourg. Hein. Mais je peux vous inviter chez moi. On fera un séminaire chez moi. Alors ça avait l'avantage d'avoir été libre et puis qu'il pouvait y avoir le thé à minuit. C'est ce qui est arrivé du reste. Mais alors il a invité tous ses étudiants et toutes ses étudiantes chez lui. Puis on a commencé à discuter là-dessus. Plus exactement, je commençais autre chose. Puis tout d'un coup, j'ai parlé d'âme et du corps. J'ai vu devant moi une petite étudiante qui s'est mise à sourire d'un petit sourire ironique. Elle a dit, ah, voilà ce catholique qui maintient la distinction de l'âme et du corps. Alors, tout de suite, puisqu'on voit tout, hein, tout de suite, je dis, ah, mademoiselle, je vous connais pas, mais je vois que vous souriez parce que j'ai parlé de la distinction de l'âme et du corps. Pour vous, cette distinction n'est pas valide. Je dis, non, ça ne vaut rien dire. C'est une vieille distinction aristotélicienne. Alors j'ai commencé à dire, non, ne dites pas ça, parce que c'est des ragots. Donc il ne faut surtout pas dire ça. Ça montre que vos sources philosophiques ne vont pas très loin. Et puis, j'ai commencé par lui dire, écoutez, on va essayer de réfléchir ensemble. Je vois que vous écoutez, vous suivez le cours. Est-ce que pour vous, il y a une distinction entre dormir et faire de la philosophie? Alors, un silence. Elle n'a pas osé me répondre. Ah, je dis, c'est pas étonnant. Parce que si vous acceptez qu'il y a une distinction entre dormir et faire de la philosophie, vous devez quand même accepter que c'est bien vous qui dormez. Et c'est bien vous qui vous réveillez le matin. Comment ça se fait? Pourquoi vous dormez? Moi, j'ai pas envie du tout de dormir. Ça me ferait gagner beaucoup de temps. Et vous, vous avez envie de dormir? Alors, il n'y a rien répondu, évidemment. Donc, il y a eu un grand silence. Parce que je dis, mais c'est pas étonnant. Si vous acceptez la distinction de dormir et faire de la philosophie, vous devez quand même accepter qu'il y a à la racine deux sources différentes. Une source qui vous éveille, et tout ce qui vous fait dormir. Bon, très bien. On a continué, je n'ai pas voulu insister trop, parce que c'était, je la sentais déjà dans un état un peu comateux. Alors, je ne voulais pas insister. Sous le coup de minuit, arrive le thé, avec des petits gâteaux. Alors, évidemment, immédiatement, la discussion philosophique est tombée au rez-de-chaussée. Alors, je suis revenu parce qu'elle prenait du thé et des petits gâteaux qui la réconfortaient. À ce moment-là, elle sortit du coma et ça allait. Alors, je lui ai dit, vous avez remarqué que depuis qu'on prend cet excellent thé, puisque c'était la maîtresse de maison qui nous offrait le thé et les petits gâteaux, la discussion philosophique a dégringolé d'un cran, ce qui est normal. Et tous. Alors, est-ce que pour vous, il y a une différence entre faire de la philosophie ou prendre le thé? Elle n'a pas su répondre. J'avais le cher professeur qui était à côté de moi, qui se tordait comme un fou. Je lui ai appris après coup qu'elle était la fille d'un pasteur, alors je lui ai dit, c'est dangereux. Après je l'ai vu, j'ai dit, écoutez, hein, quand même, entre nous. Elle m'a dit, oui, c'est vrai, j'ai pas assez réfléchi là-dessus. Mais je vais réfléchir. On suit Merleau-Ponty parce que c'est le dernier. Merleau-Ponty est à Paris. Alors, ce qui est très bon, c'est qu'il y a un premier Merleau-Ponty, puis un second Merleau-Ponty. Et le second Merleau-Ponty, je ne dis pas, a été jusqu'à affirmer la distinction d'âme et du corps, mais le second Merleau-Ponty revenait à l'être sauvage. Parce que l'être que je connais dans ma conscience, c'est un être. C'est un être civilisé, l'être connu par ma conscience. Oui, travailler ou penser, est-ce que c'est la même chose? L'être, vous voyez, l'être que je pense, il est civilisé, puisqu'il est en moi. Son zoo, c'est moi. Tandis que l'être sauvage, c'est celui que je ne connais pas. Et Merleau-Ponty, à la fin de sa vie, distingue l'être sauvage de l'être conventionnel, l'être pensé. C'est un pas énorme. Il quitte la phénoménologie pour revenir à un réalisme. C'est très vrai que si je reste uniquement au niveau de la conscience et du vécu, je ne peux plus distinguer l'âme et le corps. Parce que je n'ai aucune expérience de l'âme séparée. Je n'ai aucune expérience de mon corps séparé de mon âme. Toutes mes expériences font que j'ai la coopération de l'âme et du corps. Mais si j'atteins l'être sauvage, l'être qui n'est pas moi, parce que par définition, c'est pas moi le sauvage, si j'atteins l'autre avant ma pensée, avant le vécu, avant la conscience que j'en ai, alors à ce moment-là, je peux comprendre qu'il y a en moi une source de vie qui fait l'unité, qui permet de comprendre l'intériorité. Par l'intériorité, je comprends qu'il y a en moi autre chose que la quantité, autre chose que la matière. La quantité, la matière est source d'extériorité. Tandis qu'au contraire, l'âme est source d'intériorité. Il y a donc en moi une source radicale de vie qu'on appelle l'âme. Que les traditions religieuses appellent l'âme. Et cette âme peut dépasser, parce qu'elle est source d'intériorité, dépasser tout l'aspect végétatif. Toujours lié au corps. Tout l'aspect passionnel et psychique qui est toujours lié au corps. Elle peut être au-delà et atteindre l'universel. J'ai conscience d'atteindre l'universel. J'ai conscience d'atteindre un principe. j'ai conscience d'atteindre une loi. À ce moment-là, mon âme, par mon intelligence, est au-dessus du domaine physique. Elle dépasse ce domaine-là. La distinction de l'âme et du corps demeure une distinction que le philosophe doit découvrir. Autrement, il n'explique plus l'intériorité, la connaissance de la loi, et donc il n'explique plus la science. Je ne peux pas expliquer la science sans poser en moi une source de vie. C'est moi qui ai acquis cette science. Une source de vie au-delà des organes physiques. Ce qui est très juste d'ajouter, c'est que cependant, tout acte de connaissance est lié quant à son exercice aux organes physiques du cerveau. Mais pas quant à son objet. Alors, si je ne fais pas la distinction entre l'exercice de l'opération vitale et le contenu spécifique déterminant de cette opération, je dirais, toute ma vie intellectuelle est liée au corps, est dépendante du corps. Elle est liée au corps, elle peut s'élever au-dessus. Mais pour ça, il faut faire la distinction entre l'exercice et la spécification.